On va continuer notre série dans l'évangile de Marc et je vous propose de prendre dès maintenant le premier chapitre de Marc, juste deux versets, tout comme la semaine dernière, un texte court. Marc chapitre 1, nous lirons les versets 14 et 15. Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Marc 1, 14, 15. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle ou l'évangile de Dieu et il disait « Le temps est accompli, le règne ou le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces deux courts versets qui nous rappellent l'essentiel, la semence du message de Christ, l'évangile qu'il a proclamé lorsqu'il était sur cette terre. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que nous pouvons encore plonger nos regards dans cet évangile aujourd'hui et voir de quelle manière tu agis, de quelle manière, Seigneur, ton message est puissant pour nous transformer. Et alors que nous allons découvrir un peu plus sa vie, son œuvre et sa capacité surnaturelle à faire des miracles et toutes sortes d'autres choses, dans les semaines qui vont venir, Seigneur, nous voulons nous souvenir quel était le message de notre Seigneur, quel était le message de notre Sauveur, afin que nous puissions comprendre réellement, Seigneur, ce à quoi nous devons sans cesse revenir et nous attacher. Bénis-nous ensemble, notre Dieu, accorde-nous ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez, je suis à la fois étudiant, à la fois pasteur. C'est toujours deux activités à plein temps difficiles à concilier. Et j'ai eu, j'allais dire la chance ou l'opportunité plutôt de voir dans le cadre de mes études quelque chose qui n'est pas commun. Je l'ai vu par deux fois lorsque j'étais dans des universités différentes, voir le leadership, le directeur, le régisseur, le recteur de l'université changer par deux fois, une fois quand j'étais aux États-Unis et récemment alors que j'étudiais à distance avec la faculté d'Aberdeen en Écosse. Et lorsque ces nouveaux présidents ont pris leur poste, lorsqu'ils ont été élus et qu'ils ont pris ces responsabilités, eh bien ils ont fait une première allocution, les deux ont fait à peu près la même opération, ils ont annoncé d'emblée leur feuille de route. Ils ont annoncé l'endroit où ils allaient aller pendant leur mandat, la direction qu'ils allaient prendre et la manière dont ils allaient en quelque sorte accomplir la mission, la tâche qui leur était confiée. Et je crois que c'est tout à fait légitime, c'est ce à quoi on doit s'attendre, que lorsque quelqu'un est en charge d'une telle institution, au Texas, mon université avait à peu près 5000 étudiants, je pense que l'université d'Aberdeen, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est beaucoup plus, eh bien, il est normal que des gens qui ont de telles responsabilités, d'emblée, expliquent la vision qui est la leur, la direction qu'ils veulent prendre et la feuille de route qui sera en quelque sorte la marque de leur mandat. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Avec Jésus, il nous donne dans ces deux courts versets, ou plutôt Marc nous rapporte dans ces deux courts versets, la feuille de route du ministère de Jésus-Christ. Alors dans le contexte littéraire qu'on a ici, Marc a fini son prologue et la transition est vraiment complète. On sait que Jésus est plus grand que le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance, il est plus fort que le commun des mortels, il est plus fort même que Satan et maintenant on va connaître son ministère, maintenant on va connaître son œuvre, mais avant de parler du ministère de Jésus, Marc va nous rapporter sa feuille de route. Et c'est extrêmement important ici, parce que dans les chapitres qui vont suivre, on va voir Jésus qui va en quelque sorte rentrer pleinement dans ses œuvres, ou plutôt rentrer pleinement dans le plan du Dieu trinitaire. La semaine prochaine, on le verra ensemble, il va choisir ses premiers disciples dans le texte que l'on va aborder, et il va commencer son ministère, j'allais dire, de manière éclatante, avec des guérisons, des miracles, toutes sortes de choses surnaturelles qui vont confirmer à la fois sa mission et sa messianité, le fait qu'il est ce Messie promis que nous attendions. Mais le ministère de Jésus, ce n'est pas les guérisons et les miracles. Et la première chose que Marc veut que l'on retienne du ministère de Jésus, eh bien c'est son message. Et c'est exactement la fonction de ces deux versets, juste après ce prologue qui introduit le ministère de Jésus, eh bien ces deux versets nous montrent quel est ce message que Jésus va proclamer. Et avant de nous livrer ce message qui consiste finalement dans ce verset 15, Eh bien, Marc nous donne quelques éléments de contexte. Et ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est quelques éléments de contexte du verset 14a. Et en termes d'éléments de contexte, la première chose que l'on voit, c'est une indication temporelle. Le texte nous dit que l'action se déroule après que Jean eut été livré. Alors, première remarque, et je pense que vous commencez à en avoir maintenant l'habitude, ça fait maintenant la cinquième semaine d'affilée qu'on chemine dans l'évangile de Marc, eh bien là encore, il n'y a absolument aucun détail sur la mort de Jean-Baptiste, alors que les autres évangiles, pour certains, donnent énormément de détails sur le contexte, la danse d'Hérodiade, la manière dont toutes ces choses se sont déroulées et comment Jean a été décapité. Ici, nous n'avons aucune indication sur le mode de sa mort, sur le contexte de sa mort, sur la situation où la prédication, la proclamation, ou plutôt la réprimande de Jean qui a amené à son enfermement, puis à sa mort. Encore une fois, les lecteurs de Marc connaissaient sans doute la terrible histoire de Jean-Baptiste et sa mort décapitée après la danse d'Hérodiade. Marc ne veut pas discuter ce point, probablement parce que ça n'apporte rien à son objectif théologique. En fait, il s'en sert simplement pour donner une indication temporelle. C'est un marqueur temporel. Il veut juste nous dire, tout simplement, que Jésus est retourné en Galilée et qu'il est retourné en Galilée après la mort de Jean-Baptiste. Oui, mais voilà, cette simple affirmation ici, aussi courte soit-elle, pose un problème de chronologie et un problème de relation entre les évangiles. Et si je l'aborde avec vous, c'est parce que j'ai déjà vu des gens qui ne sont pas chrétiens utiliser cet argument-là pour discréditer l'harmonie des évangiles. En effet, parce que si on lit ce texte-là, eh bien on a le sentiment que finalement le ministère de Jésus ne commence que quand Jean-Baptiste est mort. Le problème, c'est que les autres évangiles, en particulier l'évangile de Jean au chapitre 3, laissent entendre qu'il y a eu comme une période de chevauchement entre le ministère de Jésus et celui de Jean, un petit peu un overlap, comme on dit en anglais, là où on a ces deux ministères qui ont coïncidé de manière temporelle. Alors, il n'y a pas vraiment de problème ici. Je sais que c'est un argument qui parfois est invoqué par ceux qui voient la Bible de manière critique, mais le « après » qu'on a ici, il ne faut pas qu'on le considère comme un marqueur chronologique absolu. Déjà, première chose, on va y venir dans quelques instants, la chronologie n'intéresse pas tant que cela, Marc. Mais en plus de ça, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il ne dit pas que le ministère de Jésus commence après la mort de Jean-Baptiste. Il dit simplement que Jésus retourne en Galilée après la mort de Jean-Baptiste. Oui, Marc commence son récit du ministère de Jésus à cette période-là, parce qu'il veut commencer avec la Galilée, ça c'est clair, mais il ne dit pas que le ministère de Jésus a commencé absolument après Jean-Baptiste soit mort, en fait. D'ailleurs, notez que dans Jean, les ministères de Jésus et de Jean se chevauchent, mais ils se chevauchent quand il est en Judée. Vous relirez notamment Jean chapitre 4, verset 3. Oui, c'est vrai que Jésus a un ministère, mais il est encore en Judée quand cela se produit, et on le voit monter en Galilée ensuite. En plus, il est possible que, et ça je voudrais quand même mettre ici quelques réserves, mais c'est tout à fait possible que le « après » qui est utilisé ici, eh bien, Marc l'utilise comme une référence théologique. Quand Jean-Baptiste dit « il vient après moi », eh bien, peut-être Marc veut simplement souligner ici que la prédiction de Jean-Baptiste s'est accomplie et que son ministère en Galilée s'est accompli après celui de Jean-Baptiste. Ce qu'il faut impérativement que vous notiez, et c'est pour ça que j'aborde ce point, afin que vous vous souveniez de cela, c'est que de manière générale, l'évangile de Marc n'est pas agencé chronologiquement. Alors, il y a une grande chronologie, une chronologie générale, c'est-à-dire que Jésus va avoir son ministère, puis progressivement va descendre à Jérusalem, et à Jérusalem, ça va être la fin de son œuvre sur terre lorsqu'il va donner sa vie sur la croix pour ses brebis. Mais en réalité, Marc a regroupé ce que je pourrais appeler les actions, les actes de Jésus, de manière géographique, en fonction des régions où il opérait ses miracles. Et si vous regardez bien, et que vous regardez la structure de l'évangile de Marc, vous allez voir que les chapitres 1 à 9, en fait, désignent le ministère de Jésus en Galilée, qu'il va y avoir une espèce de transition au chapitre 10 alors que Jésus va descendre à Jérusalem, et enfin des chapitres 11 à 16, la fin de son ministère jusqu'à sa mort et sa résurrection qui vont se produire à Jérusalem. Donc, l'action qui nous est décrite ici se déroule après que Jean eût été livré. Ce n'est pas une indication du début strict du ministère de Jésus, mais ça nous donne l'occasion aussi de nous souvenir que l'évangile de Marc est organisé de manière géographique et pas absolument de manière chronologique. Alors Jésus donc retourne en Galilée. Je dis retourne parce que vous vous souvenez peut-être que Jésus était en Galilée lorsqu'il est descendu voir Jean pour se faire baptiser au désert près du Jourdain. Voilà l'indication qu'on a dans le texte. On pense que c'était probablement dans la région de Jéricho. Et donc Jésus, après la mort de Jean, va remonter dans les territoires du nord, près du Liban, près de la mer, pour faire son ministère. Ça veut dire que Marc, en quelque sorte, s'intéresse essentiellement au ministère de Jésus dans la région la plus excentrée de Jérusalem, dans une région qui est un petit peu, je dirais, moins juive que les autres. C'est une région où il y a énormément de Syrophéniciens, c'est une région où il y a beaucoup de Samaritains, et probablement ici, cela nous révèle cet objectif théologique de Marc, qui, je le rappelle, écrit à des Romains, et qui veut peut-être montrer que Jésus n'a pas simplement les Juifs en vue, mais l'humanité entière. Donc d'emblée, juste avec ces quelques éléments de contexte, on arrive à voir que l'organisation de l'évangile de Marc, mais aussi l'objectif de Marc, ne sont pas forcément ceux que l'on aurait pensé de prime abord. Je pense qu'ici, c'est important qu'on note cela. Ça ne paraît pas être des applications qui soient absolument pertinentes pour notre marche et pour notre vie chrétienne, mais il y a un avertissement qu'il faut qu'on garde dans notre cœur. Lorsque nous lisons des textes qui datent du 1er siècle et d'avant, nous devrions nous souvenir que ceux qui les ont écrits n'ont pas exactement la même manière de concevoir une biographie que nous l'avons. Je parlais avec Gamilia de cela tout à l'heure, lorsqu'on discutait en fait de cet arrangement chronologique versus cet arrangement géographique de l'évangile de Marc. Il est évident que si Jésus était venu aujourd'hui et qu'on aurait voulu raconter son histoire, on aurait essayé d'être le plus précis possible, voire même scientifique, pour expliquer comment les faits se sont déroulés pas après pas après pas. Et l'un des meilleurs exemples que je peux vous donner pour vous montrer comment on raisonne, chaque fois qu'on essaye d'expliquer les divergences entre les évangiles, en tout cas les divergences apparentes, souvent on prend l'illustration de dépositions faites à la police. Et on dit, regardez, si vous avez quatre personnes qui témoignent du même fait dans une déposition faite à la police, leur témoignage ne sera pas exactement semblable, chacun va donner sa perception, et de cette manière, on aura l'histoire globale. C'est généralement un argument qu'on utilise. Mais même cette illustration, elle va trahir notre manière de penser. Parce que nous envisageons les évangiles de manière, ou de la même manière que le serait une déposition à la police. C'est-à-dire respectant tous les aspects de la chronologie, respectant la minutie des détails, bref, quelque chose qui serait de l'ordre du rapport exhaustif. Or, ce n'est absolument pas sur cette base que les évangiles sont écrits. Les évangiles sont écrits sur une base théologique avant tout. Les auteurs qui les écrivent ont un objectif qui consiste à partager un aspect particulier de la bonne nouvelle. Et ici encore, il est tout à fait probable que Marc veuille souligner le fait que l'essentiel du ministère de proclamation de Jésus se fait très loin de Jérusalem, dans une région où il n'y a pas que des Juifs. Ça nous conduit directement à la bonne nouvelle de Dieu que proclame Jésus. C'est la deuxième chose qu'on voit dans ce court texte, c'est que Jésus proclame la bonne nouvelle et il proclame la bonne nouvelle de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on avait souligné à l'ouverture de cet évangile. On avait souligné que cet évangile est la bonne nouvelle de Christ. C'est ce que le préambule, la première phrase de l'évangile dit. Il nous dit que cette bonne nouvelle de Dieu est une bonne nouvelle de Christ. Alors j'enfonce peut-être ici des portes ouvertes en vous rappelant que chaque fois que vous voyez la notion de bonne nouvelle dans les Écritures, c'est bien l'évangile qui est en jeu et vice-versa. Vous pourriez mettre ces deux expressions de manière interchangeable. Bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une seule et même chose, c'est un seul et même mot. Et ce qui est frappant ici, c'est que cette bonne nouvelle de Dieu, en quelque sorte, vient juste après le prologue, prologue qui a lui-même été commencé par l'évangile de Christ. Donc on a la bonne nouvelle de Christ, c'est l'évangile de Marc, et cette bonne nouvelle de Christ consiste à regarder Christ qui proclame la bonne nouvelle de Dieu. C'est quand même assez frappant de voir les choses sous cet angle, et cela souligne encore une fois cette égalité qu'il y a entre Jésus et Dieu. Cette divinité du Fils, il est le Messie, il n'est nul autre que Dieu. Alors regardez avec moi ce verset 15 et regardez avec moi le contenu de cette bonne nouvelle de Dieu, de cette bonne nouvelle de Christ. Et si vous regardez ce contenu que nous avons sous les yeux, qui finalement est très succinct, eh bien nous avons dans une seule phrase deux informations et deux applications. Deux informations et deux applications. Première information, le temps est accompli. Alors, on a une expression qui est similaire, je pense, en français. Je ne sais pas si vous l'utilisez au Québec, c'est quand on dit « le temps est venu », en quelque sorte. Vous voyez, c'est « voilà, il est l'heure, il faut y aller, le temps est venu ». Alors, c'est une expression qui, à mon avis, est proche. Le temps est accompli, le temps est venu, mais elle est un peu plus solennelle. L'idée ici, c'est qu'une période de temps particulière a été accomplie, qu'une période de temps particulière est venue. Peut-être même que ça veut dire qu'on est arrivé à un point crucial de l'histoire. L'idée également, c'est que quelque chose de particulier de l'histoire vient d'être accompli. Et en fait, quand vous regardez ce qui précède comme matériel et qu'on voit ce que Jean-Baptiste a annoncé au sujet de Jésus, le plus simple ou le plus cohérent pour comprendre ce texte, c'est de penser que finalement, on voit qu'il y a quelque chose qui se rapporte à l'ancienne alliance, comme si en quelque sorte, ce que l'ancienne alliance révélait a été accompli. Alors Jésus n'est pas en train de dire que l'ancienne alliance est terminée dans le sens « c'est bon, on peut la mettre au placard », mais plutôt que tout ce que l'ancienne alliance annonçait, notamment au sujet de lui-même, notamment au sujet du Messie, notamment au sujet de cet évangile de Dieu, cette bonne nouvelle, cet évangile qui avait été aussi annoncé à Abraham, nous dit l'Épître aux Romains, et bien que toutes ces choses-là, enfin, sont arrivées à leur dénouement, enfin, sont arrivées à leur terme. C'est une phrase qui est reprise également par Jésus, en quelque sorte, il la paraphrase lorsqu'il lit le livre d'Ésaïe dans la synagogue à Capernaum et qu'il dit « Aujourd'hui, ces choses se sont accomplies » en lisant le livre d'Ésaïe qui porte sur l'objet de lui-même, le serviteur souffrant. Il s'identifie au serviteur souffrant du livre d'Ésaïe parce que ce message qu'il annonçait d'avance s'est enfin accompli en Jésus. En d'autres termes, Jésus dit « Tout ce que vous dit la Torah, tout ce que vous disent les écrits, les prophètes, tout ce que vous trouvez dans les écrits de l'Ancienne Alliance, tous nos écrits sacrés s'accomplissent maintenant. Le temps vers lequel ils pointaient, l'annonce de ce jour, ce grand jour qui devait arriver, eh bien enfin est accompli. Enfin, nous y sommes. » Ça, c'est la première information. Le moment est venu et c'est un moment crucial de l'histoire. La deuxième information, c'est que le règne ou le royaume de Dieu s'est approché. Alors à mon avis, si vous lisez dans les versions qu'on utilise, la NEG 79 ou la seconde 1910 qu'on utilise généralement ici à l'église, vous avez le terme « royaume » qui est mentionné. Et c'est tout à fait légitime de traduire « royaume hein, », c'est le terme « basileia » est tout à fait approprié pour cela, mais le problème c'est que la notion de royaume semble délimiter quelque chose qui a des frontières, je dirais, géographiques, à minima. Donc on va parler du royaume d'Angleterre par exemple, c'est toujours d'actualité, surtout dans ma propre maison, d'entendre parler de la reine d'Angleterre. Je crois que mon épouse Élodie est fan de la reine d'Angleterre, elle a ses raisons, mais toujours est-il que le royaume d'Angleterre, on en entend parler avec Buckingham Palace, avec tous ses ors et tout le reste, et vous connaissez aussi le Commonwealth et l'influence que la reine d'Angleterre a jusqu'ici au Québec, même si les Québécois n'en veulent pas, n'est-ce pas? Mais il n'en reste pas moins que la reine d'Angleterre a un royaume géographique. Et ce n'est pas vraiment ce qui est en jeu ici dans ce texte-là. D'autre part, ça pourrait être un royaume qui parlerait comme d'une sphère d'influence ou d'une sphère d'activité. Après tout, on parle de Jésus. Donc, est-ce que ça serait une sphère spirituelle sur laquelle il régnerait? Est-ce que ça serait donc l'objet de son règne qui serait en jeu ici? Ça pourrait être possible, mais ça ne me paraît pas être réellement ce qui est en jeu là. Parce que le royaume, en fait, tel qu'il est présenté ici, n'est pas vraiment un concept statique. D'ailleurs, on parle à plusieurs reprises de la croissance du royaume. Donc, sauf à penser qu'on étend les frontières du royaume, l'idée plutôt ici, c'est que ce concept dynamique relève directement du roi lui-même. Autrement dit, que c'est pas tant le royaume qui est en jeu, mais le règne de Jésus qui est dévoilé à nos yeux. En d'autres termes, quand il nous dit « le règne est proche, le règne s'est approché », il est en train de nous dire « Dieu règne enfin au milieu de vous en Jésus ». Et ce n'est pas un hasard si d'emblée notre série s'intitule « Marc, deux points, Christ notre roi ». Parce que le thème du règne de Christ dans l'évangile de Marc est absolument central, son règne parmi les hommes. Alors il y aurait énormément de choses à dire sur ce motif, sur ce concept du règne de Dieu, qui est un concept qui traverse l'ensemble des Écritures, tout d'abord parce que Dieu lui-même, Yahweh, est présenté comme roi un peu partout dans l'Ancien Testament, et on pourrait le retrouver, à toutes les pages presque de l'Ancien Testament. Mais à mon avis, peut-être la référence la plus explicite à ce règne ici, celle qui est la plus claire à nos yeux, je ne dis pas qu'il y a un lien direct entre les deux textes, mais c'est celle qui la préfigure peut-être le plus, c'est celle de Daniel 2. Je suis sûr que vous connaissez ce passage de Daniel 2. Si vous avez déjà lu le livre de Daniel, c'est ce passage qui nous parle du rêve que le roi Nebuchadnezzar de Babylone avait fait. Un rêve que ses savants, ses astrologues, ses mages étaient absolument incapables de connaître et d'interpréter. Et Nebuchadnezzar, il n'avait pas vraiment envie de rigoler. Il ne voulait pas révéler le rêve aux mages. Il voulait que les mages lui expliquent le rêve et lui citent le rêve sans qu'il ait à leur raconter. Donc vous voyez, ça c'est quand même un tour de force qu'il leur demandait là. Et ce rêve est celui d'une grande statue. Laissez-moi vous lire ce rêve, il se trouve dans le deuxième chapitre de ce livre de Daniel. La tête de cette statue, c'est Daniel qui raconte le rêve une fois qu'il l'a découvert, il dit « La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer. Ses pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais, dit Daniel à Nebuchadnezzar lorsqu'il lui explique le rêve, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Elle frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Elle les mit en pièces. Alors le fer, l'argile et l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut plus retrouvée. Mais la pierre qui l'avait frappée, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et elle remplit toute la terre. » Donc, Nebuchadnezzar fait un rêve. Il refuse de raconter ce rêve à ses mages et il demande aux mages de lui dire quel était le rêve, super, mais en plus d'interpréter le rêve. Et il dit, si personne ne le fait, tous les mages du royaume seront mis à mort. Vous connaissez l'histoire, Daniel se met à jeûner avec ses amis, puis finalement, il reçoit la révélation du Dieu Très-Haut et il est capable de réciter ce rêve à Nebuchadnezzar. Et il donne donc cette image d'une statue qui était faite de différents métaux, sauf les pieds, qui étaient à la fois mélangés de fer et à la fois mélangés avec de l'argile. Et on a cette pierre très mystérieuse qui sort d'on ne sait où, qui se détache sans le secours d'aucune main, nous dit le texte, et qui va venir pulvériser les pieds de la statue. Et ce n'est pas seulement les pieds qui vont être pulvérisés, c'est l'ensemble des autres métaux. Une drôle de pierre, hein, qui va pulvériser de l'airain ou de l'or. C'est pulvérisé à un point tel qu'on a l'impression que ça s'envole comme la partie du blé qui s'en va quand le vent souffle dessus. Vous savez, la partie qui n'est pas mangeable du blé. La pierre qui avait frappé la statue, donc, devint une grande montagne, nous dit le texte, et remplit la terre. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette vision? Eh bien, regardez l'explication que donne Daniel à ce rêve, en expliquant que chaque partie de cette statue sont en fait des règnes, le règne de Nebuchadnezzar, et des règnes de rois à venir. Écoutez ce que dit Daniel. Il dit à Nebuchadnezzar, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième règne qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Puis il y aura un quatrième règne, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. » Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, du potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie d'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce que quand ils se mêleront par des alliances humaines, ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Et là, écoutez bien, verset 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un règne qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et il détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Chers amis, quand Jésus dit « le règne s'est approché », il est en train de dire que ce règne éternel, celui qui ne sera jamais détruit et qui détruira tous les autres royaumes de la terre, celui qui demeurera éternellement, qui a la forme d'une pierre, mais qui deviendra une immense montagne qui remplit toute la terre, ce règne-là en Jésus s'est approché. C'est ce règne-là qui commence et qui est initié au moment où Jésus commence son ministère. Et Jésus se présente lui-même, lui humble, lui baptisé par Jean-Baptiste, comme ce règne qui surpassera tous les autres règnes de cette terre. Et là, on est profondément impressionné quand on y réfléchit franchement, parce que ce n'est pas du tout le type de règne qu'on aurait attendu de la part de quelqu'un qui va détruire, remplacer, supplanter, en quelque sorte, tous les autres royaumes de cette terre. Chaque fois que je pense à cette idée d'un royaume qui commence avec la personne de Jésus telle qu'il était sur cette terre, et qui prend toute la place de sorte que c'est le règne qui éclipse tous les autres, je ne peux pas m'empêcher de penser à celui qu'on appelle Erino da Pozzo. Je vous ai déjà présenté, je crois, à plusieurs reprises ce personnage ici, qui était un homme qui vivait pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui n'avait pas vraiment nos convictions réformées, hein, il faut le dire, c'était un évangéliste proche des milieux des frères darbistes, et qui a vécu des choses assez extraordinaires. Il a notamment été déporté parce qu'il avait refusé de livrer des juifs. Et avant d'avoir été déporté au camp de Hambourg, da Pozzo va avoir à plusieurs reprises à être confronté aux SS, c'est-à-dire les agents du régime nazi avec qui il entretenait des relations difficiles et qui le menaçaient souvent. Il faut savoir que ce da Pozzo était suisse d'origine italienne, il parlait italien, parlait allemand, il parlait français, c'était l'interprète rêvé pour l'administration nazie de la ville où il était. Et donc, da Pozzo, un jour, va être convoqué par un commandant SS qui va lui demander de venir traduire une réunion pour lui. Et da Pozzo sortait de l'église et emmène avec lui sa grosse Bible en allemand. Il la prend avec lui, histoire de montrer aux nazis, « Eh bien, regardez, moi, je suis chrétien. » Mais lorsqu'il arrive au rendez-vous, le commandant qui est sur place se moque terriblement de da Pozzo. Il dit « Mais écoutez, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici avec cette Bible dans mon bureau alors que c'est un ouvrage qui est dépassé et qui n'a plus aucun impact sur cette terre ?» Bientôt, lui dit-il, le drapeau nazi flottera sur le monde entier. « Enfin, le temps est venu, lui dit-il. Enfin, le temps est accompli pour une hégémonie mondiale. » Le da Pozzo lui a dit « Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que ça se produira ainsi. » Et l'entretien a tourné court, et il s'en est fallu de peu qu'à ce moment précis, da Pozzo déjà soit enfermé pour avoir osé contester avec ce que ce chef nazi lui disait. Quelques années après la guerre, da Pozzo raconte, alors qu'il rend son témoignage sur cette histoire, il était sur un aéroport, il voit un avion qui se pose avec l'étoile de David et marqué dessus Air Israël. Et da Pozzo dit... La parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Et aucun de ces royaumes n'a pu accomplir leur dessein. Alors que le plan des nazis était de détruire tout un peuple et une population, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'y sont pas parvenus. Alors bien sûr, d'Apozzo avait des convictions tellement différentes des nôtres que pour lui, c'était un signe de Dieu de voir cet état d'Israël tel qu'il est aujourd'hui dans ses frontières. Et ce n'est pas du tout mon objectif de discuter de ce sujet-là maintenant. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça soit Rome, que ça soit Jean Giscan, que ça soit Alexandre le Grand, que ça soit tous les empires et les royaumes qui se sont succédés dans ce monde, aucun n'a pu être maintenu. Aucun n'a jamais atteint cette hégémonie. Ils sont arrivés avec force. Ils sont arrivés avec puissance, ils ont voulu conquérir le monde par force et ils n'y sont jamais arrivés. Mais regardez le règne que nous servons. C'est une personne qui a pris la forme d'un nourrisson. C'est une personne qui a fait son entrée triomphale, non pas sur des chars ou sur des chevaux, mais montée sur un ânon, le petit d'une ânesse, dans Jérusalem, un roi qui vient dans l'humilité, un règne qui n'a strictement rien à voir avec la débauche de force et de puissance que l'on a vue dans tous les royaumes de cette terre qui n'ont jamais réussi à perdurer. Un roi dont le règne ne peut se discerner et s'appréhender que par la foi. Ce n'est pas en regardant des grandes œuvres ou des réalisations incroyables humaines qu'on aurait pu le voir. Il fallait ses yeux de la foi pour voir ce Jésus, ce royaume-là qui anéantira tous les autres, c'est celui que nous servons aujourd'hui, c'est ce règne de Jésus dans lequel nous sommes. Alors le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché en Jésus-Christ, et du coup il nous est donné deux applications, et des applications qui sont somme toute très simples. La première, c'est repentez-vous. Le temps est accompli, le règne s'est approché. En conséquence, quoi ? Ben, repentez-vous. Jésus n'innove pas ici. Il ne fait que reprendre le message de Jean-Baptiste, le message du baptême de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez que le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême pour le pardon des péchés. Mais le message de la repentance, ce n'est pas un message qui est propre à Jean-Baptiste. Là encore, vous trouvez l'origine de ce message dans l'Ancien Testament. Et en fait, si vous regardez bien, même, vous le trouvez dès l'instant où la chute est introduite. Et vous avez dans les pages qui suivent la repentance d'Adam et d'Ève qui acceptent ce que Dieu pourvoit pour eux. Et un peu plus loin, vous avez le refus de repentance de Caïn. D'emblée, dès les premières pages de la Genèse, vous avez cette repentance qui est acceptée, qui est une soumission à Dieu de la part d'Adam et Ève, et vous avez ce refus de repentance de Caïn. Et je crois que cette repentance dont il est question ici, c'est ni plus ni moins que l'un des traits de caractère de ceux qui veulent suivre Dieu. Ils n'ont pas la nuque raide, ils s'humilient devant Dieu, ils reconnaissent qu'ils sont des créatures qui ne peuvent contester avec ce grand Dieu. À vrai dire, la repentance, c'est la porte d'entrée de la communion avec Dieu. Personne ne peut se présenter devant Dieu enveloppé de son orgueil ou de sa propre fierté. Celui qui s'approche de Dieu doit s'abaisser, il doit s'humilier, déjà en raison de sa nature même. Il est une créature. Comment pourrait-il se présenter devant Dieu en croyant qu'il peut simplement par son état même contester ou même simplement discuter avec lui? Nous n'avons rien de commun avec Dieu. Tout nous sépare de par notre nature même, déjà d'une part, mais ensuite à cause du péché. N'oubliez pas que c'est celui qui se frappait la poitrine en disant « J'ai péché contre toi, sois apaisé contre moi parce que je suis un pécheur ». C'est lui qui est reparti justifié, pas celui qui se louait et qui louait Dieu pour sa propre obéissance à je ne sais quelle tradition d'ailleurs. C'est lui, celui qui se frappait la poitrine, qui est reparti justifié. Jacques dit, humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Baissez la tête, repentez-vous. C'est en quelque sorte, j'allais dire, la voie de la hauteur. Humiliez-vous devant Dieu, c'est lui qui vous élèvera. Alors je ne sais pas comment votre texte rend le mot métanoïa, qui est le verbe métano, je pense qu'il est utilisé ici, il faudrait que je regarde, je n'ai pas la version grecque devant moi, mais qui est le terme qui est généralement utilisé pour parler de repentance, et peut-être vous avez, comme dans la NBS, l'idée d'un changement radical. Je vous avoue que je suis assez gêné par toutes ces versions modernes qui, à plein d'endroits, virent le mot repentance et le remplacent par cette idée de changement radical. Non pas que je conteste cette traduction, c'est une bonne traduction au sens strict du terme, mais j'estime que le mot repentance n'est pas si vieilli que ça et qu'il implique bien plus qu'un simple changement radical. Si vous voulez, venez avec moi dans ma cité à Montreuil, je vais vous montrer des musulmans qui rejettent complètement le message de l'évangile et qui ont changé radicalement. Ça, je peux vous le certifier, mais cela n'a strictement rien à voir avec la repentance dont parle la Bible. Je ne dis pas que ces termes-là doivent être toujours traduits par repentance. Bien sûr, la traduction dépend du contexte, mais il y a plus qu'un changement radical. Il y a cette idée d'un dégoût profond du péché. Il y a cette idée d'un désir profond de s'en détourner. Il y a cette soif de remplacer tout ce qui est du péché par la sainteté de Dieu. Jonathan Lehman de Nine Marks dit que lorsque notre cœur est pleinement repentant, nous appelons notre péché péché, par exemple. Nous ne cherchons pas à l'excuser. Bien plus, dit-il, nous démontrons une tristesse selon Dieu, c'est-à-dire une douleur centrée sur le péché lui-même et non pas simplement la souffrance de s'être fait prendre ou de devoir assumer les conséquences du péché, qui est une souffrance bien réelle, mais la véritable repentance se focalise sur le péché lui-même. C'est lui qui vous fait mal, c'est en lui qu'il y a toutes les étincelles de l'enfer, c'est lui qui vous condamne devant Dieu, et c'est lui qui fait que vous êtes séparés de Dieu, c'est lui qui met ce plafond entre vous et Dieu. C'est pas un ciel d'airain, c'est le péché lui-même. Et quand on prend cela en considération, et qu'on analyse et qu'on évalue notre propre cœur, quand a eu lieu la dernière fois où nous avons été dégoûtés du péché lui-même plutôt que des conséquences de notre péché dans nos vies? Et alors que je réfléchissais à ce que je voulais vous dire aujourd'hui et que je pensais à cette citation de Jonathan Lehman, je me suis simplement posé cette question. Et si on devait se repentir de notre absence de repentance? À bien des égards, nous devrions nous souvenir que l'une des applications directes du message de l'évangile, du kérigme de l'évangile, de cette semence d'évangile, c'est repentez-vous. Et cette repentance implique bien plus qu'un simple changement en apparence. Elle va au fond des choses, à la racine de notre orgueil et de notre péché. C'était le message de Jean-Baptiste, c'était le message de l'Ancien Testament, c'est pleinement le message de Christ. Première application, donc repentez-vous. La deuxième application, c'est croyez à l'évangile. Le message de l'évangile consiste à appeler les gens à croire à l'évangile. La repentance seule ne peut pas obtenir la grâce de Dieu. Et on en a parlé lorsqu'on parlait du baptême pour le pardon des péchés. On a bien dit ensemble que c'est un baptême qui était préparatoire, que cette repentance associée au baptême de Jean était préparatoire. Qu'est-ce qu'il fallait pour obtenir le pardon des péchés? Il faut l'œuvre de Christ, il faut notre foi en Jésus-Christ, il faut que Christ meure à la croix, il faut que Christ ressuscite, il faut que Christ accomplisse toutes choses selon la parole et que notre confiance, notre foi se focalise sur cela. Si la repentance pouvait obtenir la grâce de Dieu, si notre repentance venant de nous-mêmes pouvait obtenir quoi que ce soit de Dieu, ça serait du mérite. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose de surnaturel, et ce quelque chose, c'est le cœur de l'évangile. C'est le don de la grâce de Dieu pour le pardon de nos péchés. Ce don de la grâce qui nous rend capables de croire, ce don de la grâce qui nous permet de placer notre confiance dans ce message. C'est Dieu qui ouvre notre cœur pour que nous puissions nous tourner vers lui. Et finalement, l'évangile, c'est tellement simple. C'est accepter notre condamnation, désirer s'en détourner, compter sur Christ pour ce faire, non pas simplement sur son message, mais sur ce qu'il accomplit. On ne peut pas dissocier son œuvre de son message. Il est mort à la croix et vous ne contribuez en rien à votre salut si ce n'est à cause du péché qui l'a rendu nécessaire. Vous avez péché et Christ est mort pour votre péché. C'est vos péchés dont il a été frappé à la croix. C'est non pas à cause de vous, parce que Dieu aurait très bien pu vous laisser dans votre péché, mais c'est pour vous aussi qu'il est venu souffrir à votre place et qu'il a triomphé de toutes ces forces des ténèbres qui s'accablaient à juste titre contre vous parce que c'est tout ce que vous méritiez. Et c'est aujourd'hui en lui et uniquement en lui, en ayant confiance dans sa mort et sa résurrection, que vous pouvez avoir l'assurance d'avoir vos péchés pardonnés, que vous pouvez avoir l'assurance d'être un jour sauvé. Par conséquent, vous ne pouvez pas expliquer l'évangile sans expliquer à ceux qui vous écoutent qu'ils doivent croire à l'évangile. L'évangile lui-même est une invitation à croire. L'évangile lui-même est une invitation à se repentir. Le cœur de l'évangile n'est ni plus ni moins qu'un message qui nous invite à placer notre confiance en Jésus-Christ. Alors que nous terminons ces deux versets, on pourrait penser que finalement il y a comme quelque chose de radical entre ce message de Jean que nous avons vu dans les 13 premiers versets et ce message de Jésus que nous voyons maintenant dans ces deux versets. Mais en réalité, le ministère de Jean et le ministère de Jésus sont coextensifs. En réalité, le ministère de Jésus est dans une pleine continuité de celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste annonce le roi, Jésus annonce que son règne a commencé. C'est en pleine continuité. Jean-Baptiste annonce que les temps sont proches et Jésus annonce que les temps sont venus. Jean-Baptiste annonce une repentance qui prépare à accepter Christ. Jésus annonce une repentance qui accompagne la foi en lui. Et lorsque nous prenons tout cela en considération, nous comprenons que ce message de Christ qui vient dans le monde n'est ni plus ni moins que celui que nous avons entendu partout dans l'Ancien Testament. Il vient, celui qui réglera le problème une fois pour toutes. Il vient, ce Messie qui est annoncé dès Genèse 3.15. Il vient, celui qu'ils vont percer, qui est annoncé dans le livre de Zacharie. C'est lui qui est venu, c'est lui qui se présente à nous, et c'est lui que ce texte nous présente aujourd'hui de manière glorieuse pour nous inviter à mettre notre confiance en lui. Il est venu il y a 2000 ans, sur cette terre, en accomplissant toutes les prophéties pour notre salut. Et il l'a fait en étant parfaitement obéissant. Et alors que nous allons plonger dans les semaines qui vont venir nos regards sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur la manière dont il a interagi avec les hommes qui l'entouraient, souvenons-nous de son message. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Nous devons nous repentir et placer notre confiance en lui. Prions. Seigneur, nous te remercions de ce que encore une fois aujourd'hui, nous pouvons avoir cette opportunité de regarder à toi et d'être sauvés. C'est toi et ton œuvre, Seigneur, et tout ce que tu as accompli pour notre salut. Toi seul qui mérites l'adoration et la glorification. Seigneur, nous n'avons absolument rien amené dans ce monde. Nous n'allons certainement pas partir avec quoi que ce soit. Et nous n'avons absolument rien amené qui puisse nous faire trouver grâce et faveur à tes yeux. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous savons que si nous plaçons notre confiance en toi, à cause de ce que tu as accompli à la croix, à cause de ta victoire sur la mort, à cause du fait que tu étais celui parfait qui devait venir, et tu es venu, Seigneur, à cause de cela, nous pouvons avoir l'assurance d'avoir nos péchés pardonnés et une porte ouverte dans le ciel que personne ne pourra fermer pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te remercions de ce que tu es bon, de t'abaisser jusqu'à nous pour nous rappeler ces choses aujourd'hui. Merci pour ce court texte qui nous rappelle l'essentiel de ton message. Et nous avions besoin, Seigneur, de nous en souvenir. Nous avions besoin de sonder ta parole et de plonger nos regards en toi. Je te prie, Seigneur, que personne ne puisse sortir de cette salle sans avoir une opinion claire sur qui tu es, sans avoir une assurance claire sur ce qu'elle doit faire vis-à-vis de toi. Seigneur, change les cœurs et transforme-nous. Et Seigneur, conduis-nous à une intimité plus forte avec toi. Amen.